Et alors que la campagne pour la présidentielle bat son plein et que les candidats ont tous massivement utilisé les réseaux sociaux pour faire passer leurs idées, alors que la société elle-même n'a jamais autant communiqué par le biais, entre autres, d'Internet, certains se demandent si l'abondance de communication n'est pas en train de brouiller tous les messages en entraînant justement la communication dans les abîmes. La communication est une science, elle a toujours existé. César aurait lui-même été un des artisans du marketing politique. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré pour comprendre comment est née la communication, quels en sont les mécanismes. J'attends vos messages, vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science cet après-midi, une enquête sur les tampons qui fait froid dans le dos.
Oui, tampons, notre ennemi intime, c'est le titre de ce documentaire diffusé ce soir sur France 5 et qui s'est intéressé à la composition secrète de ces protections périodiques. On reçoit la réalisatrice Audrey Gloagen dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique de Science Improbable de Pierre Barthélémy consacrée aujourd'hui à la droite et à la gauche. Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré, réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Chantal de Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Sommes-nous en train de vivre la fin de la com? Question qui semble paradoxale et qui est pourtant au cœur de notre discussion cet après-midi avec mes invités Arnaud Benedetti et Priscille Rivière. Bonjour, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Arnaud Benedetti, alors que la planète entière surcommunique dans tous les sens et sur les réseaux sociaux en particulier, vous annoncez la fin prochaine de la com. Quelle mouche vous a piqué?
Je n'annonce pas la fin de la com. Je pense que nous sommes dans un tournant et qu'il y a une certaine façon de communiquer qui est en train vraisemblablement aujourd'hui de s'infléchir et d'être concurrencé par l'émergence de toutes les nouvelles techniques de communication qui mettent en difficulté la communication telle qu'elle est née historiquement à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Enfin, vous parlez d'un basculement inexorable quand même. Hein.
Ce qui est clair, c'est que les principes qui ont fondé la communication, c'est-à-dire des principes qui consistent à toujours faire en sorte que l'on contrôle et que l'on domestique plus l'opinion, sont aujourd'hui bousculés par l'émergence notamment des réseaux sociaux qui mettent à mal les stratégies des communicants et de ce qu'on a appelé les spin doctors.
Priscille Rivière, entre les tweets de Trump et les hologrammes de Mélenchon, la façon dont les hommes politiques communiquent aujourd'hui est quand même assez fascinante, non?
Effectivement, et finalement on a, contrairement à ce que dit Arnaud, jamais autant communiqué qu'en 2017, sur tous les canaux, avec des formes de communication totalement innovantes. Donc c'est aussi un enseignement de cette campagne, de l'innovation dans la communication.
Bon, vous n'êtes pas d'accord ensemble, mais pourtant vous écrivez des ouvrages ensemble. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler donc science de la communication avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Tampon, votre ennemi intime, documentaire choc diffusé ce soir sur France 5, qui est aujourd'hui à la une de la science.
On lui faisait confiance, et pourtant...
Un tampon a failli me coûter la vie.
J'ai perdu la peau des mains, des pieds, des paupières.
C'est un parfait inconnu.
Qu'est-ce qu'ils mettent dans ces produits?
Sur n'importe quelle boîte de médicaments, vous avez la composition. Là, rien. Ça veut dire qu'on préfère pas en parler.
Et on en parle avec vous, Audrey Gloagen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la réalisatrice de ce film, vous signez donc ce documentaire qui est une plongée dans le monde tabou des tampons et de leur composition, avec des révélations plutôt inquiétantes, on va le voir avec vous. Comment est-ce que vous avez eu connaissance justement des dangers liés aux tampons et à ces protections?
En fait, on s'est intéressé à ce sujet, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Il y a 2 ans, en fait, une pétition a été lancée en ligne par une jeune femme, une étudiante, Mélanie Dorflinger, qui était très très vite suivie sur le net, qui demandait la transparence sur la composition des tampons. Et c'est vrai que moi, spontanément, femme, ça fait des années que j'utilisais des tampons et jamais je ne m'étais posé cette question. Et là, j'ai regardé ma boîte de tampons, je me suis dit mais c'est vrai que c'est incroyable. Rien n'est listé, aucun composant, alors que pour un gel douche, ça fait des années que l'industrie a été contrainte de lister les ingrédients pour un simple gel douche et pour un dispositif aussi sensible, un dispositif intravaginal, rien. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser au sujet. Et voilà, et on a lancé des tests sur des produits et on est allé malheureusement de découverte en découverte.
Et vous avez donc finalement la liste des éléments toxiques ou non qu'on trouve dans les tampons aujourd'hui?
Alors, la liste exhaustive, malheureusement, non. Ça serait à l'industrie de nous fournir ça, si le législateur les contraignait une bonne fois pour toutes. En tout cas, nous, on a lancé un laboratoire indépendant sur ce thème. On a fait analyser 6 tampons et on a trouvé entre 20 et 30 composants chimiques. Voilà, donc déjà, on est en droit de se poser la question. À quoi ça correspond? Pourquoi? Quelle est leur dangerosité? Sur quelque chose dont on a l'impression que c'est un vulgaire bout de coton. Or, c'est pas du coton, déjà. Et surtout, dans le film, on met le point sur un composant particulier, particulièrement inquiétant, qui sont les phtalates. Dans les sutampons qu'on a analysés, on a retrouvé des phtalates, qui sont donc, on le sait, des perturbateurs endocriniens. Et voilà, et donc moi je suis allée rencontrer des chercheurs de Harvard, qui étudient depuis 10 ans plus de 800 femmes sur l'impact entre les phtalates et la fertilité, et qui savent qu'il y a un moment crucial dans la fertilité, c'est le moment des règles. S'il y a bien un moment où on n'a pas besoin de phtalates, c'est à ce moment-là. Donc, ils étaient hallucinés par cette découverte. C'est ça qui était assez passionnant aussi dans ce documentaire. C'est-à-dire que je leur ai transmis ce rapport, ces tests, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que les tampons étaient une voie d'exposition. C'est-à-dire que les phtalates, on en est entouré. Donc, ils les ont étudiés partout. Ils ont dit, mais c'est incroyable, il faut absolument qu'on retravaille là-dessus. Parce qu'on sait que, voilà... Les règles, c'est à ce moment-là que, en tant que femme, on commence à produire nos œufs, etc. Et c'est vraiment crucial. Et dans leur étude, dans cette étude de ces chercheurs de Harvard et du docteur Carmen Messerlian, elle a prouvé que plus on avait de phtalates à ce moment-là, et plus on avait de risques de faire de fausses couches. Et plus on avait des risques d'être infertile. Voilà, on sait que l'infertilité, c'est un problème mondial, c'est un problème constant qui ne fait qu'augmenter. Donc voilà, moi je trouve ça extrêmement inquiétant d'avoir trouvé des phtalates dans les tampons.
Et pourquoi il y a des phtalates dans les tampons? Alors, vous avez posé la question?
Oui, on s'est posé la question, même si, évidemment, encore une fois, cette question-là, moi je souhaitais la poser aux industriels. Hein. J'ai demandé à être entendu, à avoir une interview du syndicat des fabricants de tampons, ils nous ont jamais donné la réponse. Aucune réponse. Voilà, ils n'ont pas voulu nous donner l'interview. Maintenant, moi, j'ai fait cette enquête-là. Donc, ce sont des questions que je pose. Pourquoi phtalates? On sait aujourd'hui que dans les tampons, certains tampons, on a par exemple sur les tampons un petit voile en plastique. Voilà. Donc, on se dit, tiens, ah, plastique. Peut-être phtalate. On sait aussi, moi j'ai trouvé des brevets sur internet montrant que dans la composition absorbante du tampon, on utilisait aussi des phtalates. Voilà. Tiens, est-ce que ça serait lié à ça, au plastique, phtalate, etc.
Audrey Gloagen, il y a la question du chlore également qui est abordée dans le documentaire, parce qu'en fait la blancheur du tampon, elle est liée au chlore qu'on utilise justement pour donner cet aspect immaculé au tampon.
C'est ça.
Et alors, qui pose des problèmes aussi.
Voilà, ça vient de ce... On ne peut pas comprendre la problématique des tampons si on ne comprend pas le tabou. C'est d'ailleurs pas innocent s'il n'y avait jamais eu aucun documentaire là-dessus, si personne ne s'est intéressé à ça, parce qu'il y a un tabou qui entoure les règles pour plein de raisons religieuses, etc. Féministes pour les tampons, parce qu'on n'interroge pas ce produit, parce que c'est un produit qui a libéré les femmes. Et donc, le tampon est associé à la blancheur virginale, parce que les femmes, nous sommes dans ce carcan de la féminité où on croise les jambes pour prendre peu de place, on s'habille en blanc, on doit être magnifique, jamais on ne doit pas être, le sang ne doit pas se voir, et donc le tampon se doit d'être d'une blancheur virginale. Et c'est donc pour ça que donc, la cellulose qui est composée dans les tampons est blanchie par les industriels par du chlore. Oui. Sinon les tampons traditionnels seraient gris, marron, ouais. En fait seraient marron, ouais. Amarronnade.
Ce qui est moins vendeur, ce qui est moins glamour.
On se rend compte dans le documentaire que vous n'êtes pas la seule à vous intéresser à la composition des tampons. Vous rencontrez une personne membre du secrétariat d'État à la consommation qui a une enquête en cours. Où en est ce travail? À quoi peut-il aboutir?
Vous parlez de la dioxine ou des dioxines?
Sur la composition même des tampons.
En fait, on voit qu'on en est vraiment au tout début. Hein, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un an, il faut quand même leur rendre grâce, le secrétariat d'État à la consommation a, pour la première fois de son histoire, décidé de lancer des tests sur tampons, serviettes, etc. Ils ont trouvé des dioxines dans les tampons, ils ont trouvé également un phtalate dans les tampons, comme nous. Et donc, ils se sont emparés de la question. Donc déjà, on peut les saluer. On se dit, c'est bien, pour la première fois, les tampons sont sur le marché depuis les années 60. Enfin, c'est fait. Maintenant, ils ont transmis ces résultats. Ils ne s'avancent pas. Ils ont transmis ces résultats à l'ANSES. Voilà, en disant quel est l'impact sur la santé des femmes. Moi, j'ai pas attendu l'enquête de l'ANSES, quoi. L'enquête, l'ANSES, on sait comment ça va se passer, cette autorité de sécurité sanitaire. Ils vont attendre d'avoir les études de tout le monde pour dire, ah, peut-être, c'est potentiellement dangereux.
Voilà. Justement, les effets délétères avérés, est-ce qu'ils existent?
Alors, on sait de manière avec certitude que les tampons Là, on parle plus de composants chimiques, mais de la fibre en tant que telle, qui n'est donc, je le répète, qui n'est pas en coton, mis à part pour les tampons bio, qui affichent tampons en coton. Mais depuis des années, avant les tampons, il y a des années, étaient en coton. Et ils ont changé, les industriels ont changé, pour des raisons économiques, parce que le coton, c'est une culture qui est sujette aux aléas de la météo, au cours de la bourse. Mmh. C'est compliqué tout ça, voilà, aux fongicides. Et donc, ils ont décidé de faire du synthétique. Voilà, c'était bien plus simple à gérer, c'était aussi plus absorbant. Et donc, ils ont transformé ça. Et aujourd'hui, on sait que les tampons synthétiques sont responsables des syndromes du choc toxique. Ça, on le sait avec certitude, c'est documenté. J'ai rencontré le docteur Tierno aux États-Unis qui témoigne encore aujourd'hui dans des procès de femmes qui ont été amputées parfois à cause du syndrome du choc toxique, à cause d'un tampon, et qui dit il y a des tonnes d'études qui montrent bien que lorsque un tampon qui donc bloque le flux menstruel et une toxine se libère avec le staphylocoque doré, et le staphylocoque doré se nourrit de la fibre synthétique.
Et se répand donc à la vitesse grand V dans l'organisme. Voilà. On voit deux témoignages de jeunes femmes françaises qui ouvrent justement ce documentaire. Une dernière question,
Axel. Oui, on voit bien, c'est une enquête avec des faits, pas des conclusions scientifiques, mais beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous attendez après ce documentaire, vous, maintenant ?
Moi, j'attends que les fabricants, enfin, nous dévoile la composition claire, mais pour être vraiment tout à fait honnête, je pense qu'ils ne le feront pas si le législateur ne les contraint pas. Voilà, je pense que la seule manière, c'est encore une fois, vous parliez tout à l'heure de l'industrie cosmétique, c'est la même chose. L'industrie cosmétique, on les a obligés à un moment de mettre des pourcentages, 0,1% de parabènes, etc. Il faut faire la même chose sur les tampons, les obliger à faire des tests, et puis, je l'espère que ce documentaire intéressera des scientifiques et qui se mettront vraiment à faire des études, étudier une cohorte de femmes et voir l'impact des tampons sur les femmes, vraiment.
Alors, c'est ce soir sur France 5, 20h50.
20h50, oui, dans Le Monde en Face.
Tampon, votre ennemi intime. Et c'est d'ores et déjà sur télérama.fr, pour ceux qui souhaitent le voir sur le web.
C'est ça.
Dès maintenant, en avant-première, avant la diffusion ce soir. Merci beaucoup, Audrey Loguen, pour cette enquête que vous avez menée dans le monde entier, comme on pourra le voir ce soir donc sur France 5. Merci, Axel.
À demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, voici enfin un espoir pour se débarrasser des plastiques, justement, qui polluent les océans. C'est une petite chenille. Des chercheurs américains ont découvert qu'une espèce particulière de ver à soie commercialisée pour nourrir les animaux était capable de dégrader le polyéthyle, une des molécules plastiques les plus résistantes et les plus utilisées pour faire des sacs notamment. En moins d'une heure, une douzaine de vers peuvent ingurgiter 12 mg de plastique. Les chercheurs sont maintenant à la recherche des enzymes qui permettent à l'insecte de digérer le plastique pour s'en inspirer dans les processus de recyclage. Les rats taupes nues peuvent survivre 18 minutes sans oxygène. Voici une nouvelle particularité pour ce mammifère atypique aveugle, sans poils. Il vit sous terre et c'est l'une des créatures terrestres les plus robustes, déjà connues pour ne pas avoir de cancer et ne pratiquement pas ressentir la douleur. Ils peuvent donc résister sans oxygène pendant presque 20 minutes grâce à un métabolisme proche de celui des végétaux, où les cellules cessent de consommer du glucose pour consommer un autre sucre, le fructose, qui n'a pas besoin donc d'oxygène pour être décomposé en énergie. Cette capacité permet également aux rats taupes nues de subsister plusieurs heures durant dans des cavités très pauvres en oxygène. Un cas unique chez les mammifères. Et puis enfin, si vous avez manqué notre live de samedi pour la marche pour les sciences, eh bien on vous propose aujourd'hui un petit résumé en 2 minutes pour retrouver l'ambiance, les messages de cet événement mondial. Il est sur notre page Facebook et on attend vos retours dans les commentaires. Donc vous pouvez aller sur la page de la Tête au Carré. Allez, la science de la com, dans un instant, c'est le sujet de notre dossier. Got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. What I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Resist. Fire avec Bette Ditto à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Vivons-nous la fin de la communication? C'est la question posée aujourd'hui dans le dossier de la tête au carré pour parler également de cette science avec mes invités Priscille Rivière et Arnaud Benedetti. Priscille Rivière, vous enseignez justement la communication à l'université de Marne-la-Vallée et vous êtes responsable adjointe du service de presse de l'INSERM. Vous avez coécrit avec Arnaud Benedetti la communication aux éditions Economica et Arnaud Benedetti, donc directeur de la communication à l'INSERM, professeur associé à la Sorbonne, et vous publiez de votre côté La fin de la com aux éditions du Cerf. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Qu'est-ce qu'on enseigne justement autour de la communication à l'université, Priscille Rivière?
On enseigne les techniques de communication, les outils qui permettent ensuite de réussir et de faire parler.
Donc il y a plein de promesses.
Il y a plein de promesses.
Outils infaillibles ou pas alors?
Rien n'est infaillible dans la communication. Il faut savoir se servir des outils et puis faire preuve également de bon sens. Mm-hmm. Ceci dit, ne pas se servir des bons outils risque en revanche de provoquer des effets non escomptés.
Ouais, donc, vous aurez peut-être des exemples à nous citer pendant cette émission. Arnaud Benedetti, justement, la communication c'est une science, c'est-à-dire qu'on a des théories éprouvées qui sont là pour justement...
Non, la communication est un objet de science. On étudie la communication, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que la communication. Bon, la communication, d'abord, c'est un acte quotidien hein, que nous effectuons tous les jours, ne serait-ce que dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. La communication, c'est quelque chose qui fonde la société aussi. Il n'y a pas de société qui ne puisse tenir, ne serait-ce que de manière pacifique, s'il n'y a pas un minimum de communication. Mmh. Donc la communication, c'est quelque chose qui vient de loin, qui est quasiment anthropologique. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la com, c'est-à-dire ces activités qui sont nées à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et qui
alors,
ont
ce que vous expliquez,
objet...
c'est une vraie activité professionnelle aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est une activité professionnelle qui a une histoire. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le petit livre que j'ai commis aux éditions du Cerf, c'est justement d'essayer de retracer cette histoire de la communication. Parce que finalement, quand on regarde en France, il y a très peu d'ouvrages ou même d'articles sur l'histoire de la communication, ce qui est vrai aux États-Unis dans l'historiographie américaine, mais ce qui n'est pas vrai en France. Et l'idée, c'était de comprendre comment ces activités, ces pratiques, ces briques élémentaires de la communication en tant qu'activité professionnelle étaient nées. Et très vite, on se rend compte que ce sont des activités qui sont nées à l'abri ou à l'ombre, je ne sais pas comment il faut dire, de deux figures absolument essentielles de notre modernité. La première figure, c'est la démocratie parlementaire, parce que la démocratie parlementaire va susciter la naissance de ce que l'on appelle la communication d'influence, voire le lobbying. Et puis ensuite, l'autre grande figure, c'est l'économie de marché, qui va susciter la création d'une des activités, qui est une des activités matricielles de la communication, sur le plan historique, qui est la publicité.
Ouais. Priscille Rivière, donc c'est vraiment une profession aujourd'hui. Hein. Vous expliquez à quel point elle comporte des règles très particulières.
Effectivement, la communication, comme le rappelle Arnaud, on en fait sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Mais effectivement, il y a des règles, il y a des codes. Et ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que finalement, les bases et les bonnes règles et les bonnes pratiques, en 2017, on a beau avoir des outils et des innovations assez dingues, les bonnes pratiques restent finalement assez simples et les mêmes depuis un certain nombre d'années.
Et du coup, les règles, elles valent quels que soient les outils de communication utilisés ?
Quels que soient les outils et je dirais même plus quels que soient les domaines. Ouais. Finalement,
mais les règles ne se transforment pas avec les nouveaux outils, justement ?
Elles peuvent s'adapter, mais il reste forcément des bases. Vous pouvez mettre toute la forme que vous voulez à votre communication. Si vous n'avez pas un fond, si vous n'avez pas quelque chose à dire, vous allez directement au casse-pipe.
Pourtant, on a quand même le sentiment que certains n'ont pas grand-chose à dire et arrivent quand même à être des champions de la communication, à renommer les Benedetti. Hein, on le voit tous les jours aujourd'hui.
Oui, alors la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que finalement, comme on est dans un monde où on communique en effet de plus en plus, où on a surtout de plus en plus d'outils pour communiquer, c'est ça ce qui change aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus d'outils pour communiquer, nous avons de plus en plus de méthodes pour communiquer, nous avons de plus en plus de pratiques pour communiquer, mais en même temps que l'on communique de plus en plus, nous autres, les récepteurs, et c'est vrai notamment dans le domaine politique, qui est un domaine de forte actualité en ce moment, nous sommes de plus en plus capables de décrypter, de déchiffrer et de décoder. C'est-à-dire que plus on communique sur le plan professionnel, plus nous sommes en effet en mesure de voir parfois quelles sont les ficelles qui sont utilisées par les communicants. Donc on devient nous-mêmes des professionnels de la communication, je veux dire, sans être automatiquement formés à ces techniques.
Le message s'écroule quand on en découvre les ficelles ou pas ?
Le problème de la communication, c'est que la communication a toujours existé, par exemple, sur le plan politique. C'est ce qu'on rappelle d'ailleurs dans nos deux livres. C'est les princes, les monarques ont toujours mis en scène leur action politique, ont toujours mis en scène le pouvoir. La difficulté, c'est que à côté de la symbolique, il y avait de l'action. Et le problème de la communication, c'est que vous pouvez avoir de la symbolique, mais quand vous retranchez l'action, vous n'avez plus que de la com. Et la difficulté, en effet, quand vous vous retrouvez dans cette situation, quand il n'y a plus que de la com, quand il n'y a plus que de l'image, ça finit par se voir.
La communication remonte à très loin, exemple par exemple. Exemple avec Astérix et Obélix et César, extrait de Mission Cléopâtre.
J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar.
Caesar ou César?
Non, César, je trouvais le son intéressant, mais vous m'en graverez 4 blocs.
Voilà, apprécier le Rivière. César, un des premiers communicants de l'histoire, on peut dire les choses comme ça
écoutez,
ou pas ?
Si on en croit Astérix et Obélix, on va dire oui.
Arnaud Benedetti, en tout cas, quelqu'un qui déjà manipulait assez bien le marketing politique.
Bah, on peut considérer que la communication politique, c'est peut-être le plus vieux métier du monde. Ouais. D'une certaine façon, il est... C'est vrai que quand il écrit La guerre des Gaules, d'une certaine façon, il fait un acte de communication. Mais enfin, bon, pour en revenir, disons, à une période plus récente, on peut considérer que la communication émerge en tant qu'activité. Alors peut-être d'abord sous la forme de la propagande, mais avec l'émergence de ce qu'on a appelé l'opinion publique. L'opinion publique, c'est quelque chose qui émerge à peu près à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que les dirigeants, les princes, vont se rendre compte que l'on ne peut plus gouverner sans accorder une attention à l'opinion publique. Et l'un de ceux qui, vraisemblablement, peut être considéré comme l'un des fondateurs de la communication politique moderne, c'est Bonaparte. Il est extrêmement intéressant de voir comment Bonaparte va se saisir du phénomène de la presse pour communiquer. Bonaparte se retrouve jeune général victorieux dans les plaines d'Italie. Il va
Il fait des plans médias.
Il fait
déjà,
des plans médias avant l'heure. C'est-à-dire qu'il va créer, il va susciter la création d'un certain nombre de gazettes qui sont censées raconter ses exploits. Et comme il a très bien compris que la communication, elle doit être partout en même temps, il sent qu'il y a quelque chose qui relève de l'ubiquité dans la communication. Mmh. Au même moment, et comme certainement il a quelques arrière-pensées politiques en direction de la France et en direction de Paris, il suscite la création à Paris deux gazettes qui vont raconter ses exploits en Italie. Donc on peut considérer que Napoléon est l'un des tout premiers à avoir compris l'importance de la presse dans la communication politique, même s'il ne la formule et il ne la formalise pas en tant que telle.
Oui, avant lui, à Versailles, Louis XIV aussi était un bon communicant quand même, vous le rappelez ?
Louis XIV met en scène l'absolutisme royal à travers ne serait-ce que le symbole que constitue Versailles, mais ne serait-ce qu'aussi à travers l'ensemble des fêtes qu'il organise à Versailles pour faire adhérer à sa conception du pouvoir, notamment l'aristocratie. Quand il finit par enfermer l'aristocratie, qui est un rival, d'une certaine façon, du pouvoir royal à Versailles, il fait un acte politique, mais il fait aussi un acte de communication.
Priscille Rivière, il y a une question d'Alain sur franceinter.fr qui nous dit ceci. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas la communication par son vrai nom, à savoir la propagande? Justement, Arnaud Benedetti en parlait il y a un instant.
Il me semble que la propagande, contrairement à la communication, avait une volonté politique de faire passer des messages, de les déformer. La communication est là pour accompagner et au contraire pour porter une parole juste, d'accompagner des gens qui peut-être ne maîtrisent pas effectivement les techniques, mais en aucun cas de déformer le message.
Donc vous faites bien la distinction entre les deux
À mon niveau, entre propagande et communication. Benedetti.
Voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en effet, moi je pense que la communication et la distinction entre la communication et la propagande, c'est que la communication est un exercice qui s'insère dans un contexte démocratique. C'est-à-dire que la communication tient compte de l'opinion publique. Alors que la propagande a un objectif, c'est de marteler un message de manière verticale, de manière mécanique, pour conditionner psychologiquement des foules et des opinions.
Est-ce que c'est parce que font nos hommes politiques, au fond ?
Oui, alors ils le font. C'est là toute la difficulté. C'est qu'en fait, la communication naît d'une certaine façon de la propagande, mais elle va tenir compte de l'opinion publique et elle va essayer de susciter et de créer des outils qui vont permettre à un moment donné de fabriquer du consentement.
Parce qu'une campagne électorale, c'est quand même ça, c'est marteler chaque soir inlassablement les mêmes messages.
Mais c'est marteler dans un contexte pluraliste. La propagande, en règle générale, quand on parle de propagande, c'est dans un contexte qui n'est pas pluraliste, c'est dans un contexte autoritaire ou totalitaire. Dans un contexte démocratique, en effet, vous avez plusieurs messages qui se concurrencent, et ensuite, c'est aux citoyens et aux récepteurs de faire le tri.
Au soleil couchant, ça soupire, ça soupire. Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère maudit, maudit. Le voilà qui s'endort au son des claquetis.
Ils s'enfuient. partir de 15h sur cette machine avec deux doigts qu'est tapé le fameux appel. Vers 18h, le général et son aide de camp, Geoffroy de Courcelles, quittent Seymour Place et se fait conduire en taxi à la BBC. Charles de Gaulle est en uniforme avec képi à feuilles de chêne, gants blancs à la main. À son arrivée, le directeur de la radio anglaise l'accueille et l'accompagne au quatrième étage dans le studio B2. Le général s'assoit silencieusement auprès du speaker des émissions françaises qui lui passe la parole à la fin de son bulletin d'information.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs.
L'appel du 18 juin n'a pas été enregistré. Les techniciens de la BBC étaient trop occupés par la préparation du discours de Churchill. En France, peu de personnes l'entendirent. Il apparut comme une péripétie de cette fin du mois de juin. Mais pour De Gaulle, l'essentiel n'était pas là. Il avait dit à haute voix qu'il existait une autre politique que celle de Pétain, une autre politique que celle de l'armistice.
Voilà un sujet diffusé sur Antenne 2 en 1990 autour de l'appel du 18 juin. Cet appel au combat du général de Gaulle, Arnaud Benedetti, bien vous l'évoquez justement comme une nouvelle étape aussi dans la façon de communiquer pour un politique c'est, comme de Gaulle.
C'est très important quand on regarde la façon dont de Gaulle a utilisé la radio et a utilisé la communication durant la guerre. On voit très bien qu'il en a fait, lui qui était finalement un général assez isolé à Londres, une arme politique absolument essentielle. Et d'ailleurs, quand on lit sur cette période les rapports que faisaient les préfets et faisaient remonter les préfets au ministère de l'Intérieur à Vichy, on se rend compte que très vite, les Français vont délaisser les organes officiels de propagande de Vichy pour écouter la radio, les radios étrangères, et notamment la BBC, pour avoir de l'information. Donc, De Gaulle avait compris et avait anticipé que la bataille qu'il fallait conduire était d'abord une bataille de communication, compte tenu finalement de la faiblesse de ses moyens militaires dans le conflit qui était engagé alors.
Et le sujet rappelait qu'on n'avait pas d'enregistrement en fait du 18 juin.
Pas d'enregistrement du 18 juin.
Priscille Rivière, ces règles que vous évoquiez tout à l'heure, ces règles qui fondent au fond la communication, qui les a créées ?
Alors, on dit que au début du XXe siècle, un Américain qui s'appelle Ivy Lee est un des pères fondateurs de la communication. C'est d'abord un journaliste. Il monte ensuite une agence de communication, associé à une agence de lobbying. Et effectivement, c'est lui qui va le premier proposer de rédiger des communiqués de presse, d'organiser des voyages de presse pour rendre un petit peu plus transparent la manière dont les entreprises américaines communiquent, que ça soit public ou privé. Et on se rend compte que voilà, en 2017, on est encore finalement
sous son influence.
Voilà, sur des règles qui n'ont pas
rien changé
énormément. Il y a des règles également en communication de crise, qui sont d'être dans l'empathie, puisque quand vous êtes dans une crise, au départ, les gens ne sont pas forcément en capacité d'écouter des messages concrets, d'empathie, dans la réactivité, dans la transparence.
Alors lui, justement, il les teste, ces cas de figure, puisqu'il y a deux événements, c'est une crise au sein d'une usine de charbon, et puis un grand accident, une catastrophe ferroviaire, Arnaud Benedetti.
Oui, alors Lee, c'est en effet Lee, on considère que Lee est l'homme qui invente les relations presse et qui invente la communication de crise, mais c'est vrai qu'à l'époque, les grands magnats, les grands industriels ont tendance à se cacher et à éviter la confrontation avec les journalistes déterreurs de scandale, comme on les appelle. Et Lee va leur dire, écoutez, on est dans une société justement où aujourd'hui le poids de l'opinion est tel qu'on ne peut plus se dissimuler, qu'on ne peut plus cacher. Donc il faut aller à la confrontation avec la presse et donner et produire de l'information.
D'autant que pour lui, l'opinion est malléable quand même.
Alors oui, l'opinion est malléable, mais pour tous les gens qui inventent la communication, et on reviendra si vous voulez sur une autre figure importante qui est Edouard Bernays, qui est un des pères fondateurs de la communication d'influence, l'opinion... Lee a fait la campagne de Parker contre Theodore Roosevelt au début du siècle, en 1900. Et il est sorti convaincu de cette campagne électorale qu'il a perdue, néanmoins, que l'opinion publique, en effet, c'est une matière tout à fait malléable et sur laquelle on peut agir avec des techniques de communication qui soient des techniques de communication bien huilées, bien sophistiquées. Et en l'occurrence, il invente ces techniques, il fait partie de ceux qui inventent ces techniques et il considère que néanmoins, l'opinion publique, aujourd'hui, est un facteur de légitimation des dirigeants. Et qu'on ne peut pas légitimer un dirigeant légitimer un dirigeant, quel qu'il soit, que ce soit un dirigeant économique ou un dirigeant politique, si on ne tient pas compte de l'opinion.
Priscille Rivière, il y a cette question de Françoise qui nous dit ceci, c'est bien d'enseigner les outils de la communication, la façon de les utiliser selon les informations qu'on veut donner, mais enseignez-vous les outils pour vérifier ces informations afin d'éviter de transmettre des informations déformées, erronées, incomplètes ou fausses. Ça me semble primordial, dit Françoise, et c'est justement ce qui manque lors de l'utilisation des nouvelles techniques de communication.
Effectivement, et il y a...
Alors en tant que prof de com, comment vous faites ?
En tant que prof de com, il y a aussi tout ce qui est important, c'est de faire de la veille, avant même de vérifier une information, si voilà, on peut recouper les informations. Et il y a de plus en plus effectivement d'initiatives. Je pense au site du Monde, les décodeurs. Il y a effectivement beaucoup d'enseignants, voilà, qui essayent d'apprendre. Mais je pense que ça s'apprend tôt, en fait. Comment lire un journal, comment interpréter une photo, est-ce qu'il n'y a pas un montage, etc.
Mais la question est cruciale aujourd'hui, à l'heure justement des réseaux sociaux, où tout le monde y va de son information.
On est d'accord.
Faire le tri, c'est absolument essentiel, non ?
C'est difficile. Et c'est essentiel.
Ouais. Arnaud Benedetti, comment on s'y prend ? Alors concrètement, on l'a vu là avec l'élection présidentielle, hein, ce premier tour où le nombre de fausses informations ont été absolument hallucinantes, quand même. Dimanche, par exemple. Hein.
Oui, de toute façon, on n'arrêtera pas la production massive de bruit sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'information ou de rumeurs. La vraie difficulté aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une difficulté que rencontrent les journalistes qui sont obligés de vérifier en permanence les faits, c'est que la difficulté, c'est que on est pris dans un système où on va de plus en plus vite et où la vitesse cannibalise globalement le fonctionnement du système médiatique. Et on voit bien d'ailleurs que la façon dont le système médiatique aujourd'hui fonctionne a un impact même sur le comportement des acteurs politiques. Les acteurs politiques ont tendance aujourd'hui à réagir, être toujours dans la surréaction, voire dans l'hypervisibilité pour être présent dans l'espace médiatique. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, c'est en effet de pouvoir à la fois tenir un discours qui soit un discours argumenté et avec en outre des dispositifs où l'information circule de plus en plus vite et de plus en plus massive. Et le véritable enjeu, c'est aujourd'hui d'être capable de trier l'information, de la hiérarchiser et surtout de l'expliquer.
Qui était Édouard Bernays alors ?
Alors Édouard Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud, c'est celui dont on peut considérer qu'il est l'homme qui va aller le plus loin dans la théorisation des métiers de la communication et des métiers des relations publiques.
On va l'écouter, extrait justement d'un documentaire, on écoute sa voix.
I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word Council on Public Relations.
Voilà, c'était en 1991, j'ai décidé que si on pouvait utiliser la propagande pour la guerre, on pouvait certainement l'utiliser pour la paix. La propagande avait mauvaise presse à cause de son utilisation par les Allemands. Alors, dit-il, j'ai essayé de trouver un autre mot et on a trouvé le mot « conseil en relations publiques ». Arnaud Benedetti.
Oui, c'est très intéressant parce que Bernays a fait partie de la fameuse commission qui, en 1917, la commission Krehl, qui est créée par le président américain Wilson, qui va avoir pour objectif de faire comprendre à l'opinion américaine, l'opinion publique américaine, qu'il faut intervenir dans le premier conflit mondial. Donc on date en général la création des métiers de la communication et des spin doctors de 1917 et de la création de cette commission. Et Bernays, c'est quelqu'un qui considère que, encore une fois, l'opinion publique est essentielle, mais que et il a une vision très cynique et très instrumentale de la communication. Il considère que les États, que les sociétés doivent être dirigées par des élites éclairées, par des oligarchies. Et explicitement, il va mettre en place des techniques de communication qui ont pour but, il emploie le terme, de fabriquer du consentement. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés et les peuples adhèrent à des messages, naturellement, sans s'en rendre compte, et ces messages sont là pour légitimer le pouvoir d'un certain nombre d'élites.
Alors justement, ce message de Georges Priscille Rivière, pourquoi n'est-il pas clairement dit par vos intervenants que la communication est une manipulation des esprits ?
Mais non, mais elle ne l'est pas toujours.
Priscille Rivière,
pardon,
réponse.
Elle ne l'est pas toujours.
Non, je reste sur ma ligne de conduite. Je pense qu'un professionnel de la communication aujourd'hui accompagne dans un message avec un fond et pas forcément n'importe quoi. Non, on n'est pas dans la propagande.
Arnaud Benedetti, soyez plus convaincant, s'il vous plaît.
Mais je pense qu'en effet, la communication, c'est quelque chose de très hétérogène. Il y a différentes pratiques de communication. Bernays avait une vision de la communication qui était une vision très politique, essentiellement politique. Aujourd'hui, depuis les années où cette communication versus Bernays a été inventée, la communication s'est dotée de règles d'éthique. Il faut savoir par exemple qu'en France, dans les années 50, 60, il y a un des fondateurs de la communication publique en Europe, qui s'appelait Lucien Matra, qui est le premier à avoir créé une charte d'éthique des métiers de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir de l'éthique en communication? C'est d'abord d'être en capacité d'écouter ce que l'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire de prendre en compte le message, par exemple, à l'intérieur d'une entreprise, le message des salariés, d'être capable de l'intégrer dans les politiques d'une entreprise.
On n'y est pas toujours, hein, vous êtes d'accord.
On n'y est pas toujours, ouais. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des pratiques qui permettent de moraliser et de rendre plus éthiques les métiers de la communication.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de la discussion, et puis on va s'intéresser justement à cette campagne pour la présidentielle avec les outils utilisés par les différents candidats. Ce sera après Lou Reed et Dirty Boulevard.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly. Fly, fly away. I wanna fly. Fly, fly away.
Fly, fly.
Et la communication au cœur du dossier de la Tête au Carré avec mes invités Arnaud Benedetti et Priscille Rivière et vos messages sur franceinter.fr. La communication qui a mauvaise presse finalement, Priscille Rivière.
Écoutez, bon, il faut venir auditeurs... ici pour s'en rendre compte.
C'est étonnant, non, mais ça vous surprend ou pas? Les auditeurs sont très critiques et suspicieux au fond des méthodes.
Oui, c'est vrai que ça me surprend parce que c'est des métiers qui sont comme des comme d'autres métiers qui sont pas là pour mentir ou pour déformer, bien au contraire.
Pas vraiment d'accord avec vous là-dessus, Arnaud Benedetti, quand même.
Ce sont des métiers qui ont mauvaise presse. Alors, le paradoxe, c'est que ce sont des métiers qui, en effet, ont plutôt mauvaise presse. Ce sont des métiers qui n'ont cessé de croître ces 20 ou 30 dernières années. Mmh. Alors, vous regardez, d'ailleurs, les institutions, même les plus fermées en apparence à la communication, se sont ouvertes à la communication. Hein. Les institutions religieuses, l'armée communiquent.
Le pape communique, oui, c'est
tout le
vrai.
Monde, le pape est sur Twitter. Ce sont des métiers qui ne cessent de croître, mais tout simplement, je pense que la communication, en effet, a mauvaise presse parce que les origines dont on parle, lointaines de la communication, ont été construites sur des méthodes qui étaient quand même fondamentalement des méthodes de manipulation et de conditionnement de l'opinion. On a un exemple très simple. Les premiers industriels à avoir utilisé des hommes de relations publiques, des lobbyistes, ce sont les cigarettiers. Les cigarettiers, au début du XXe siècle, au moment où les premières études mettent en avant la corrélation qui peut exister entre le développement d'un certain nombre de pathologies et la consommation de tabac, vont utiliser en effet un certain nombre de spécialistes des relations publiques, notamment l'un des grands inventeurs de la publicité moderne qui s'appelle David Lesker, mais aussi Édouard Bernays, dont on a parlé, également Ivy Lee, pour tout simplement bâtir une communication avec des messages qui ont pour objectif de rassurer l'opinion publique et surtout de gagner d'autres segments du marché.
Priscille Rivière, est-ce que le cas de Donald Trump, Twitter fou, est un cas d'école quasiment et est-ce qu'il est enseigné dans les universités, en tout cas en tant que chef d'État communiquant?
C'est effectivement un cas d'école puisqu'effectivement il s'affranchit des codes, si vous voulez, d'un chef d'État d'autant plus américain.
Et de toute diplomatie d'ailleurs.
De toute diplomatie, mettant éventuellement ses conseillers en difficulté ensuite pour rattraper les choses. Mais effectivement, il communique sans filtre, sans filet, peu importe effectivement les conséquences, ce qui paraît, vu d'ici, assez dingue.
Ouais. Arnaud Benedetti, c'est fascinant au fond cette façon de communiquer aujourd'hui, c'est totalement nouveau, non? Barack Obama était un Twitter assez efficace d'ailleurs aussi,
oui,
on s'en souvient.
C'était un Twitter efficace, sauf que c'était un Twitter qui contrôlait, qui était dans le contrôle. Alors que Trump, et on l'a vu, toute la campagne de Trump aux États-Unis a été une campagne qui s'est bâtie contre les médias traditionnels et qui a utilisé notamment les réseaux et qui a utilisé Twitter pour contourner les médias traditionnels. Et d'ailleurs, c'est certainement une des raisons parmi d'autres de son succès. Ce que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est en effet d'éviter toute forme d'intermédiaire et d'éviter toute forme de filtre. Et c'est en ce sens que l'émergence des réseaux sociaux est un fait qui déstabilise profondément les stratèges de communication qui sont là confrontés tout d'un coup à des outils qui les dépassent.
Ouais. En 2012, Priscille Rivière, vous rappelez le fameux tweet de Barack Obama.
Four more years, avec l'accent.
Trois mots historiques.
C'est ça. Je pense que c'est aussi le sens de la formule. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'effectivement ça a été...
4 ans de plus.
Relayé à travers le monde. C'est des petits mots. C'est très simple. Et c'est effectivement très viral.
C'est quoi? C'est ça au fond la com aujourd'hui, Arnaud Benedetti? C'est des petits mots, c'est du buzz, c'est de la forme plus que du fond?
Non, il y a aussi du fond. Je crois qu'il ne faut, il faut pas tomber dans la caricature et dans l'excès. Il est évident que le fonctionnement du système aussi médiatique fait que, c'est un fonctionnement extrêmement rapide où l'information se consomme très très rapidement et que l'image prend une importance aujourd'hui capital dans le débat. Et encore une fois, on l'a vu récemment, on voit bien que on passe plus de temps à analyser les stratégies de com et les postures de communication des hommes politiques qu'à analyser et étudier leur programme. La vraie difficulté, je pense que c'est en effet, encore une fois, la vitesse et que on est dans un temps d'extrême vitesse et que le temps d'extrême vitesse, c'est pas un temps qui permet de déployer et de développer une argumentation représentation.
Oui, une pensée et aussi d'anticiper les effets de ces propos. C'est peut-être un des problèmes auxquels va être confronté Donald Trump d'ailleurs, non ? À force de tweeter la vitesse de l'éclair.
Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est affranchi de toutes les règles de la communication, mais en même temps c'est quelqu'un qui connaît la communication de par son parcours personnel. Mmh. Et donc il y a eu d'une certaine façon la préscience que aujourd'hui on pouvait subvertir les règles de la communication pour, à un moment donné, transgresser et passer des messages et aller directement à l'opinion publique.
Très vite, Patrice nous dit, si la communication change de visage, notamment par le biais des réseaux sociaux, la communication traditionnelle des lobbies alliés à un potentiel budgétaire énorme reste cependant très prégnante. Pour conclure,
il est clair qu'aujourd'hui, un certain nombre de groupes de pression savent particulièrement bien se doter de conseils en communication, d'outils de communication, mais aussi un certain nombre d'ONG hein, qui savent elles aussi recourir à des professionnels de la com et qui savent là aussi bâtir très bien leur message.
Merci beaucoup à tous les deux. Arnaud Benedetti, En solo, la fin de la com, c'est aux éditions du CERF. Et la communication en duo avec vous, Priscille Rivière, c'est aux éditions Economica. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu nous en parler.
La chronique de Pierre Barthélémy en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Alors comme c'est l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, interdiction d'évoquer la politique, je ne parlerai ni de la droite ni de la gauche. Mm-hmm. Parlons art Mathieu.
D'accord.
Alors la Joconde de Vinci, la jeune fille à la perle de Vermeer, le portrait inachevé de Bonaparte par David. Trois tableaux si célèbres qu'on peut les faire mentalement apparaître en fermant les yeux, ce qui est pratique à la radio. Des portraits qui ont un point commun. Les trois personnages ont la tête tournée de manière à exposer principalement la partie gauche de leur visage. Alors, à en croire une étude italo-britannique publiée en 2016, il s'agit d'un biais persistant dans la peinture, y compris dans les autoportraits. Alors, vous me direz que quand Rembrandt se représentait, il tournait le plus souvent la tête dans l'autre sens. Mais en réalité, comme les artistes peignent leur reflet dans un miroir où tout est inversé, c'est bien le côté gauche de leur binette qu'ils montrent en priorité, même si on a l'impression du contraire.
Oui, je croyais qu'on devait parler ni de droite ni de gauche. Qu'est-ce qui explique cette étrange latéralisation ?
Alors ça pourrait provenir d'une convention picturale ou bien de l'habitude de placer le chevalet sur la droite des sujets de façon à ce que la main tenant le pinceau ne masque pas le modèle. Une hypothèse culturelle donc, à laquelle les auteurs de cette étude opposent une hypothèse neurologique. Vous savez que tout est croisé dans le cerveau. Alors en partant de l'idée que l'hémisphère droit est spécialisé dans le traitement des émotions, notre profil gauche serait le plus expressif et donc privilégié par les artistes. Les chercheurs ont testé leur scénario sur une population qui n'a pour ainsi dire aucun accès à la culture en général et à une éducation artistique en particulier. On veut bien sûr parler des jeunes gens qui ont pour unique référence culturelle les émissions de télé-réalité, les talk-shows des cérébrants et les youtubeurs dont le chiffre du quotient intellectuel n'atteint qu'exceptionnellement celui de la température anale, comme le disait Pierre Desproges, au sujet des commentateurs sportifs.
Comment est-ce qu'on a testé ces jeunes, Pierre ?
Une centaine d'enfants et d'adolescents âgés de 9 à 16 ans ont participé à une expérience dont ils étaient à la fois les cobayes et les acteurs, puisqu'il leur était demandé de réaliser une tâche pour laquelle ils sont parfaitement entraînés, faire un selfie avec un téléphone portable. Ils étaient installés dans une tente ronde et blanche pour que l'arrière-plan de l'image soit toujours identique et qu'il ne les influence pas. Ils devaient se photographier en tenant le smartphone à deux mains et en prenant tout leur temps pour choisir la meilleure pose. Le résultat confirme ce que les chercheurs avaient déjà pu constater en analysant des autoportraits partagés sur Instagram. Sur un selfie, c'est comme sur un tableau. On présente préférentiellement la partie gauche de son visage. 50% des autoportraits réalisés lors de l'expérience montraient ce cas de figure, contre 29% des photos prises de face et seulement 21% de profil droit. Et ce n'est toujours pas un sondage politique.
Merci Pierre, votre chronique est à retrouver dans le cahier Science et Médecine du Monde qui sortira cet après-midi dans les kiosques avec au sommaire un dossier consacré à la surconsommation des antidouleurs qui aux États-Unis serait responsable d'un tiers des morts par overdose. Des drogues qui poussent les autorités sanitaires et politiques à se pencher sur cette crise de santé publique. La France moins touchée reste cependant vigilante. Vous aurez tout le dossier donc dans Le Monde daté de cet après-midi. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Avec Affaires Sensibles, dans quelques minutes, de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
D'un journal qui s'appelait, car il n'existe plus, L'Idiot International et qui était dirigé par Jean Edernalier, personnage polémique et sulfureux surtout. Je ne peux pas vous résumer l'affaire, ça n'aurait pas de sens, hein, c'est trop compliqué. Voilà, je ne peux pas aller au-delà, simplement je peux vous dire qu'on en parlera avec notre invité François Bonnet, l'un des fondeurs du site Mediapart, il dirige aujourd'hui la rédaction de ce site.
Merci Fabrice, à tout à l'heure, merci également à Florent Beauvallet et Stéphane Beaujat qui étaient à la technique et vous êtes sur France Inter, il est 15h.